Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va faire le point sur Cyril Gane, la situation de Cyril aujourd'hui et des heavyweights au global. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Cyril Gane qui centralise un peu tout ça, mais c'est vrai que ça n'avance pas trop au sommet de la pyramide heavyweight. Et puis c'est aussi une petite réponse au classement criminel qui est sorti de la part d'ESPN MMA où Cyril apparaît comme numéro 5. Donc on va faire le point avec Big Rusty. Oui, pour une fois on va peut-être sortir de nos gonds les gars. En tout cas on va faire le point là-dessus sur tout ce qui se passe.
Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, Stephen Smith.
Big Rusty, là, le calache est chargé. On est parti. Bonsoir. Donc au niveau des heavyweights, et ça ne vous échappe pas, au sommet évidemment, ça ne bouge pas beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Donc bref rappel hein, de ce qui s'est passé, parce que c'est important, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui découvrent le MMA avec les combats qui ont eu lieu au mois de mars. En gros, si vous voulez, on a un champion intérimaire qui s'appelle Tom Aspinall, qui n'a pas de date de retour, parce que généralement quand vous êtes champion, vous affrontez le champion incontesté pour tenter d'unifier les ceintures. Le champion incontesté, c'est enfin celui qui est aujourd'hui propriétaire de cette ceinture-là, c'est Cyril Gane qui avait battu, John Jones qui avait battu Cyril Gane au mois de mars dernier en 2023. Et John Jones qui devait affronter en novembre 2023 Stipe Miocic. Stipe Miocic, ancien champion et recordman de défense de ceinture UFC, sauf que Stipe Miocic et John Jones n'ont pas pu s'affronter au mois de novembre dernier car John Jones s'est blessé. Sauf qu'au regard du statut des deux athlètes, l'UFC a préféré se dire on décale le combat plutôt que de faire affronter Tom Aspinall contre Stipe Miocic ou Stipe Miocic contre Sergei Pavlovitch. Parce qu'un combat Miocic contre John Jones, deux américains, deux légendes, deux superstars, ça fait beaucoup plus de sous que n'importe quel autre combat. Et donc aujourd'hui on est dans une situation où la catégorie est un peu bloquée puisqu'on attend le retour, en tout cas l'officialisation du combat Miocic contre John Jones qui est toujours la priorité de l'UFC. Et du côté de Tom Aspinall, forcément vu qu'il est champion intérimaire, bah il doit attendre que ça se fasse. Pour l'instant, on a des rumeurs comme quoi il y aurait donc Miocic contre Jones au mois de novembre prochain, ce qui paraît comme une éternité pour l'avancée de la catégorie. Oh, mais bon, on a déjà été habitué à ça parce que souvenez-vous, lors du règne de Stipe Miocic, il combattait une fois par an et on avait été dans la même situation avec Francis Ngannou qui devait attendre et concasser véritablement du contender puisque Miocic, pendant 3 ans, à raison d'une fois par an, il affrontait Daniel Cormier, qui était certes une très belle rivalité, mais ça n'avançait pas trop. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation Big Rusty où on a l'impression que c'est bloqué. Et pour Cyril Gane Cocorico, bah, c'est un peu emmerdant parce qu'il est toujours officiellement numéro 2 au classement heavyweight Cyril Gane, mais il n'y a pas de date, et ce qui se comprend parce qu'il est numéro 2, donc il ne peut pas affronter n'importe qui.
Et d'ailleurs, donc, on en profite pour le dire, c'est il y a une différence entre le classement ESPN, même si c'est le diffuseur de l'UFC, et le classement UFC. Et bah, effectivement, sur le classement ESPN, il est numéro 5 maintenant, et même 6, parce qu'on peut considérer que du coup, ils sont ex aequo, Blades et Pavlovic. Et sur le ranking officiel de l'UFC, bah, Cyril est toujours numéro 2. Et moi, déjà, le premier truc que j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-ce que c'est possible déjà de mettre, dans quelque manière que ce soit, Cyril derrière Stipe Miocic. Ça, c'est le truc que je ne comprends pas. Alors, peut-être que tes lumières vont pouvoir éclairer mon chemin sombre, mais là, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Comment est-ce que c'est possible, sachant qu'il n'a pas combattu depuis littéralement 4 ans presque, Miocic?
Ouais, complètement d'accord. Ce qui est chaud, c'est que Stipe Miocic, même donc le classement officiel de l'UFC, Cyril Gane est deuxième, troisième Pavlovic, quatrième Stipe Miocic. Stipe Miocic, les gars, la dernière fois qu'on l'a vu dans une cage, c'était au mois de mars 2021, il a fini très mal, puisqu'il a fini mi-KO par Francis Ngannou. Sa dernière victoire remonte à l'été 2020, contre Daniel Cormier. Donc ça veut dire que, enfin, on parle quand même d'un gars qui n'a plus connu la victoire depuis 4 piges maintenant, ce qui est une éternité véritablement. Il est classé devant Cyril. Et là où moi je pète un petit peu un cap par rapport au classement ESPN, hein, c'est que Stipe, moi, c'est le truc le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, on a donc Stipe Miocic qui est troisième du classement ESPN. Et le problème, c'est donc c'est Brett Okamoto en plus qui a fait le classement, donc qui est un journaliste très influent et qui s'y
Et
connaît
Brett
vraiment.
qui a fait le classement.
Brett Okamoto qui a fait le classement. Et donc, on a même donc Will Harris qui fait Anatomy of a Fighter qui a commenté le post Instagram pour dire virer celui qui a fait ce classement-là. Et j'irai pas jusque-là pour notre cher Brett Okamoto, mais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, Brett Okamoto, par rapport au classement de Stipe Miocic, il dit que Stipe Miocic, pour lui, c'est le GOAT des heavyweights, le plus grand de tous les temps chez les lourds. Déjà, ça, en fait, ça avec Big Rusty, on en a parlé maintes et maintes fois, c'est ce que l'UFC a essayé de pousser, mais si vous suivez un peu le MMA, c'est Fedor, le roi des lourds, et that's it. On peut pas. On peut. C'est compliqué. Enfin, voilà, c'est
Si
très.
on veut un goat, en tout cas, ouais,
Exactement. C'est très très dur
ben oui.
de dire autre chose. Et le problème qu'il y a par rapport à ça, et ce qui est très surprenant, c'est que même dans son explication, Brett Okamoto dit le problème de Stipe Miocic, c'est qu'il est virtuellement à la retraite, il n'a pas combattu en 4 ans, et par rapport à Jones, il dit qu'il a combattu une fois en 4 ans. Mais bon, on a avec Jon Jones le GOAT du MMA et avec Stipe Miocic le GOAT des heavyweights, et on n'a pas d'autres explications qui justifient sa position de troisième. En gros, pour lui, c'est le retraité numéro un parmi les prétendants à la ceinture. Voilà, c'est comme ça qu'il présente Stipe Miocic, ce qui n'a
Ouais.
aucun sens.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais tellement du coup qu'il nous donne un peu une explication un peu plus fournie, parce que c'est vrai que à ce compte-là, vu que là Fedor il commence à dire qu'il veut combattre Tyson, enfin j'ai vu un truc passer, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu un truc passer par rapport à ça. Si ça c'est vrai, ouais.
Ouais, ça a été
Démenti.
démenti, oui, complètement.
Ah bon, bah ça va. Mais si jamais du coup Fedor là voulait revenir, c'est-à-dire hypothétiquement il arrive, il dit bon je fais un dernier combat avec le PFL ou un truc comme ça, je veux affronter Ngannou, j'en sais rien. Bah dans ces cas-là, Fedor est actif, Fedor est le GOAT des heavyweights, c'est bon. C'est donc Fedor redevient numéro 1 au classement Tapology, ou alors on le met juste en dessous, enfin dans le top 5. Cette logique-là n'a aucun sens. Là pour le coup, c'est soit on se fie à des performances actuelles ou récentes. Soit dans ces cas-là, bah revenons même, allez, classement de boxe, allez, Mohamed Ali top 5, c'est bon. Là, on sait jamais. Tu... Non, très mauvais exemple, parce que du coup, il est décédé, bien sûr. Mais disons George Foreman.
Oui.
Oh la vache, le dérapage que j'ai failli faire là.
Oui, Big Rusty, toujours dangereux, mais vous voyez l'authenticité du personnage. J'avance un peu avant de parler de Cyril. Il y a aussi le cas de Jon Jones et Thomas Spinal, où j'ai beaucoup de mal à comprendre le classement de la part de Brett Okamoto. Tu vois, par exemple, pour Jon Jones, il justifie le fait qu'il soit deuxième parce que Jon Jones n'a pas battu le champion UFC qui était Francis Ngannou, mais il a battu pour la ceinture vacante Cyril Gane. Et là, je suis mais tellement surpris par ce qu'écrit Brett Okamoto, parce que donc il a battu pour le titre vacant Cyril Gane, qui détient du côté de Cyril sa victoire face à l'adversaire le plus championship caliber, donc de calibre champion. C'était contre Junior Dos Santos dans le dernier combat de la carrière de Junior Dos Santos à l'UFC. Et je ferme les guillemets. C'est l'explication de Brett Okamoto. Alors qu'on sait tous qu'au moment où Cyril Gane bat Junior Dos Santos, il est septième. C'est le premier combat face à un mec vraiment classé de Junior Dos Santos. Et c'est à une époque où, oui, Junior Dos Santos était un nom, mais il était sur la pente descendante. Et les victoires de Cyril, qui sont contre Jerzynho Rozenstruik, contre qui avait même battu Junior Dos Santos aussi, la victoire de Cyril Gane contre Alexander Volkov, contre Derrick Lewis, sont des victoires qui signifient beaucoup plus que Junior Dos Santos. C'est pour ça que je suis très surpris de cet argument du côté de cet argument du côté de Brett Okamoto, parce que la victoire de Jon Jones face à Cyril Gane, à l'époque, Cyril, c'est le mec le mieux classé de la catégorie, le mec le mieux classé qui est disponible. Et ce que fait Jon Jones, certes, c'était très décevant pour nous le combat de Cyril Gane, mais à Jon Jones, c'est exactement comme ce qui s'est passé pour Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Ça nous brise le cœur, nous, en tant que supporters, mais Jon Jones, il a fait tout ce qu'il fallait faire contre Cyril Gane. Et c'est pour ça que je trouve ça très très bizarre comme argument de la part de Brett.
Bah ouais, bah et puis c'est pas comme si, enfin il y a eu du coup la défaite contre Ngannou et la défaite contre Jones qui sont donc parmi les meilleurs poids lourds de ces dernières années. Et à côté de ça, mais même tu vois, ne serait-ce que du coup Tibura je sais pas Tibura et zut Et la victoire qu'il y a eu du coup entre Ngannou et Jon Jones, Tai
Non.
Tuivasa.
T'as tué ça? Ouais.
Ouais. Et Spivak et Tai Tuivasa. Et bah, pour le coup, c'est donc des gars qui, alors même si là, oui, Tai Tuivasa, il a perdu contre Marcin Tybura, ça fait pas très très bon, etc. Mais bah, à l'époque, c'était quand même des gars qui étaient dans le top 10, quoi qu'il arrive aussi. Du coup, c'est réduire entre guillemets la valeur de Cyril à Junior dos Santos, même au regard de sa dernière victoire sur Spivak, ne serait-ce que ça, c'est très étonnant aussi, effectivement. Donc la logique est complètement absente de ses explications, visiblement. Et pourtant, c'est un très 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 bon journaliste,
Mais
Boato
oui,
Kamoto, hein,
c'est un
vraiment.
très très bon journaliste. Et pour moi, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je mettrais Jon Jones en numéro 1. Il ajoute aussi Brett Okamoto qu'il ne met pas Jon Jones parce que Jon Jones n'a qu'un seul combat chez les lourds. Et par rapport à Tom Aspinall, donc il ne tarit pas d'éloges à l'encontre de Tom Aspinall, donc il explique le paragraphe complet, c'est Tom Aspinall est le présent et l'avenir de la catégorie. Il pourrait devenir l'un des plus grands poids lourds de tous les temps une fois qu'il aura terminé sa carrière. Il a le full package dans une catégorie où on n'a même pas besoin d'avoir ce full package pour réussir. Aspinall est, et là aussi je suis très surpris quand il dit ça, Tom Aspinall est plus athlétique et talentueux que n'importe lequel de ses pairs. Il a de nombreuses façons de gagner un combat. Et son QI combat est aussi élevé que possible. Jones a peut-être le titre officiel de l'UFC, mais c'est Tom Aspinall, et Jon Jones est peut-être le plus grand de tous les temps, mais c'est Aspinall qui est actuellement le meilleur poids lourd du monde.
Donc ça veut dire qu'on ne se base pas sur les accomplissements en eux-mêmes pour l'instant, mais on se base sur ceux pour lesquels on pense qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont le meilleur niveau.
C'est ce qui moi, en fait, c'est ce qui moi me surprend beaucoup avec ça. Et en gros, aujourd'hui, tu vois, je mettrais vraiment par rapport au classement, si moi je devais faire un classement, je mettrais Jon Jones en 1, en 2 Aspinall parce qu'il a la ceinture heavyweight intérimaire. En 3, je mettrais Cyril Gane. Et en 4, soit Miocic je le laisse, soit je l'enlève. Derrière, je mettrais Pavlovich, Curtis Blaydes. En fait, moi je suis d'accord. Moi, je prendrais le classement UFC et il y a juste la présence de Stipe Miocic où je mettrais un point d'interrogation. Parce que Thomas Spinal, sur le papier, en fait, et c'est toujours ce truc-là, un peu comme ce qui s'est passé avec, et peut-être qu'on pourra parler des Curtis Blaydes après, mais pour moi, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec notre cher, je n'arrive plus à le voir dans les classements, avec Gelton Almeida qui est classé numéro 7. C'est que pour moi, Thomas Spinal, même si c'est très bien ce qu'il a fait contre Sergei Pavlovitch, c'est tu restes toujours dans une situation où tu n'as pas apporté toutes les réponses. Et Cyril a eu cette occasion-là, parce que Cyril, il a affronté deux véritables légendes qui sont Francis Ngannou et Jon Jones, qui, on va dire, qui sortent du statut mec extrêmement dangereux, comme l'est Sergei Pavlovitch. Mais avant que Sergei Pavlovitch affronte Thomas Spinal, on n'avait pas eu toutes les réponses. Et même au. Enfin. Tant que les gars n'ont pas été mis face à ce qui est sur le papier leur kryptonite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en gros, tu vois, avec Gelton Almeida, là on a eu la réponse avec Curtis Blaydes. Qu'est-ce qui se passe quand t'affrontes un mec qui est bon en lutte et qui est plus lourd que toi? Bah, tu te fais mettre TKO et donc du coup là, il va falloir qu'il bosse un petit peu Gelton Almeida. Gelton Almeida, là on l'oublie complètement. Mais avant le combat contre Curtis Blaydes, on était en train de se dire, ça va être chaud pour Cyril, ça va être chaud pour Tom. Enfin, c'est le prochain mec à être champion. Sauf que là, on a eu la réponse face à Curtis Blaydes. Et Thomas Spinal, pour moi, le problème, c'est de le mettre d'aujourd'hui numéro 1, meilleur poids lourd au monde, quand sa victoire la plus significative, c'est contre Sergei Pavlovitch, et où malheureusement le combat contre Curtis Blaydes n'a duré que 15 secondes, ça s'est terminé sur une blessure, et du coup, ne prenez pas du tout en compte ce qui s'est passé si vous regardez que le truc Wikipédia de vous dire, ouais, c'est Curtis Blaydes qui a battu Thomas Spinal, non, c'est juste qu'il y a eu une blessure au genou de Thomas Spinal. Mais. Aujourd'hui, il y a toujours tellement de points d'interrogation, à mon sens, sur Tom Aspinall. Le fait que tous ses combats se terminent au premier round, le fait qu'on n'ait pas vu ce qui se passe quand il affronte un lutteur, le fait qu'on n'ait pas vu ce qui se passe quand tu dures un petit peu dans la cage, que tu peux très bien, quand il affrontera soit Stipe, soit Cyril, soit Jon Jones, se dire « Oh merde !» Comme ce qui s'est passé pour Francis Ngannou lors de son premier combat contre Stipe Miocic, c'est « Ah !» On s'est peut-être trop enflammé. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu risqué aujourd'hui de mettre Aspinall aussi haut. Après, je suis
Bah, parce
peut-être
qu'en fait,
dur,
le
hein, Big
problème.
Rusty. Hein. Je suis peut-être dur avec lui. Hein.
Bah, en fait, mais je serais plutôt. J'aurais tendance à avoir un raisonnement un peu comme le tien, dans le sens où, après, moi, ce qui me fait peur, c'est si on commence à prendre ce genre de logique qui est bah, de ce qu'on voit là de Thomas Spinal, effectivement, ça a l'air peut-être d'être potentiellement le meilleur poids lourd de tous les temps, et peut-être que ça le deviendra, mais c'est sur ce qu'on voit là pour l'instant, effectivement. Et dans ces cas-là, si on pousse ce genre de logique à fond de ce qu'on voit là maintenant dans les combats qu'il a fait jusqu'à présent, mais sans qu'il y ait eu entre guillemets encore les combats soit contre Jones, soit contre effectivement des mecs encore mieux classés et dangereux, encore plus dangereux. Bah dans ces cas-là, Bonical, mettons-le numéro 5 au classement ou même champion, tu vois. Parce qu'au final, Bonical, de tout ce qu'on a vu de lui, ou Khamzat, on a vu personne faire ce que ces gars-là avaient fait jusqu'à présent. Bah, Khamzat, du coup, entre-temps, il a fait le combat contre Usman, etc. Mais si on se base sur. Ouais, mais là, de ce qu'on voit là, honnêtement, c'est probablement le meilleur. Mais avant qu'il ait effectivement rencontré ces tests-là, tu peux faire ça avec beaucoup de monde. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une métrique qui est acceptable. C'est que c'est. On ne peut que se fier pour avoir un classement solide à ce qu'on a vu jusqu'à présent, genre factuellement, en fait. Et enfin voilà, je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire.
Si, si, Bigosti. Je suis entièrement d'accord. Faut se baser sur ce qu'on voit et surtout qu'on a été tellement habitué à avoir ces gros gros retours au réel quand il y a, j'ai plus souvenir de choses qui soient arrivées un petit peu récemment comme ça où tu vois, on a un énorme prospect et puis tu sais, on se prend un énorme mur. Il y a eu évidemment, mais ça commence à remonter, le Yair Rodriguez contre Frankie Edgar. Mais vous voyez ce genre de combat où l'UFC il pousse à, bah, voilà. Assez récemment, c'est Raphaël Fiziev contre Justin Gaethje. Où vous avez un espoir qui est poussé par l'UFC, on se dit, waouh, Gaethje, Fiziev, regardez son striking, c'est. Sauf que vous affrontez le numéro 2 qui est en la personne de Justin Gaethje, et ah oui, en fait, voilà ce qui se passe quand t'affrontes la crème de la crème. Et là, pour moi, c'est un peu ça avec Thomas Spinal, j'ai encore besoin, tu vois, d'avoir d'autres réponses. Par exemple, Curtis Blaydes aujourd'hui, c'est pour ça que moi, Curtis Blaydes contre Cyril Gane, par exemple, ça m'intéresse, c'est parce que Curtis Blaydes aujourd'hui.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est clair, net, précis, quelle est sa kryptonite. Sa kryptonite, c'est les mecs qui peuvent éteindre le gars hyper rapidement. C'est à chaque fois, il tombe contre des gars comme ça parce qu'il n'arrive pas à développer son jeu quand il est avec les gars comme ça. Et c'est même pas d'un point de vue game plan où c'est dense, il n'arrive pas. C'est Sergei Pavlovitch, il met en place sa lutte beaucoup trop tard. Alors que on sait que s'il avait une approche différente, ça serait sans doute, passé différemment. Et avec Cyril, on sait qu'aujourd'hui, Cyril, il arrive à développer ses combats et son striking qui est peut-être le plus développé de la catégorie et un des plus développés du MMA tout simplement. Mais Cyril n'éteint pas les gars en un seul coup. Et là, moi, ça m'intéresse parce que s'il arrive à battre Curtis Blaydes, il battrait Curtis Blaydes d'une manière différente de toutes les défaites qu'a eu Curtis Blaydes pour l'instant. Et donc là, vous pouvez double-checker, triple-checker Cyril avec son approche face au lutteur. Curtis Blaydes, ce qu'il a fait à Gelton Almeida, ce qu'il a fait à. Enfin, vous pouvez mettre tous les gars sur lesquels il a roulé, à chaque fois c'est hyper impressionnant parce qu'il n'a pas ce côté je vais potentiellement me faire éteindre. Et c'est pour ça que moi le combat contre Curtis Blaydes et Thomas Spinal, ça m'intéressera, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, les deux ont l'air chaud, ça m'intéresserait de le revoir parce que l'approche qu'avait Curtis Blaydes sur les 15 premières secondes, il avait pas du tout. Enfin, on voyait. Un Curtis Blaydes qui n'avait pas peur du striking adverse, comme un peu ce qui s'était passé contre Junior Dos Santos, ou contre Junior Dos Santos, certes vieillissant, mais c'est un Junior Dos Santos où il n'a pas du tout respecté l'anglaise de Junior Dos Santos, il n'a même pas eu besoin de sa lutte dans ce combat-là. C'est pour ça que moi, ça fait partie, tu vois, des gars que j'enterre pas Curtis Blaydes, parce qu'en fonction des mecs qu'il affronte, bah, ça peut être extrêmement intéressant. Et donc bref, Big Rusty, je sais pas si on passe au Cyril Gane.
Ah ouais.
Ah oui. Oh là. Pardon, pardon. Et donc tout ça pour dire que globalement pour la position de numéro 1 de Thomas Spinal, voilà, c'est toujours se dire qui ils affrontent. Sergei Pavlovitch, il y a pas longtemps, j'avais vu un commentaire là-dessus. Je pars complètement en long tunnel, mon cher Rust. Hein, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire.
Mais oui.
J'avais vu aussi sur Sergei Pavlovitch. Où en gros ils expliquaient que ouais, Sergei Pavlovitch il a une excellente lutte, les gars faites gaffe. Pour l'instant là aussi, où pour Thomas Spinal il est extrêmement fort. Il est extrêmement fort, mais j'ai besoin encore de voir d'autres échantillons. C'est que pour l'instant, il affronte des gars, je ne vais pas dire unidimensionnels, mais où c'est assez clair où est-ce que vous devez les prendre à chaque fois. Sergei Pavlovitch, la seule fois où il y a eu de la lutte face à lui, quand un gars a vraiment utilisé un game plan autour de la lutte, c'était Alistair Overeem. Alistair Overeem qui a terminé par TKO Sergei Pavlovitch à son premier combat UFC. Alistair Overeem, vous demandez à tout le monde, est-ce qu'il est connu pour sa lutte ? La réponse est non. Pourtant, c'est comme ça qu'il a gagné Alistair Overeem. Donc quand vous... Et même s'il a bossé énormément, Pavlovitch, depuis, il n'y avait pas eu d'autres échantillons de lui qui utilisait sa lutte aussi bien défensive qu'offensive. Donc, quand vous avez ce genre d'exemple, avec un combat d'aussi haut niveau, forcément que Thomas Spinal ne s'attendait pas à ce que Sergei Pavlovitch utilise sa lutte. C'est pour ça que moi... Un combat contre Curtis Blaydes pour Thomas Spinal, ça m'intéresse toujours. Et un combat contre John Jones, ça m'intéresse. Et un combat contre Stipe Miocic, ça m'intéresse. Parce que ces trois gars-là, c'est des mecs qui peuvent utiliser les deux. Et donc, on le répète à chaque fois avec Big Rusty, on ne cessera de le répéter. Mais c'est vrai que développer votre striking face à un mec qui peut vous amener au sol, même s'il ne va pas vous amener au sol, mais que vous avez ça dans un petit coin de votre tête, par exemple les bonicales, etc., ça change complètement votre approche parce que vous n'allez plus avoir la même latitude et vous n'allez plus développer tout ce que vous développez d'habitude de la même manière. Donc c'est pour ça que pour moi, ce sera important de voir ça pour la suite pour Thomas Spinal, et c'est ce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas vraiment à se soucier de ça contre quelqu'un comme Sergei Pavlovitch. Big Rusty, est-ce que j'ai fait le tour ? Est-ce qu'on peut passer à Cyril Gane ou est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ?
Non, let's go.
Formidable. Et donc le cas Cyril Gane, classé 5e, notre bouc cocorico Cyril Gane, et 2e du côté de l'UFC. Moi je pense tout simplement, les gars, qu'on est dans une situation où, voilà, Cyril il est numéro 2 de la catégorie, forcément chaque combat a de l'importance, il a déjà fait le pas en arrière avec Sergei Spivak, et comme tu vois les Gaethje, comme les Dustin Poirier dans d'autres catégories, c'est généralement, vous affrontez le petit jeune, et ensuite vous allez vers l'avant, vous allez pas... continuellement affronté, sauf quand vous êtes dans une situation un peu, j'ai envie de dire, de conflit avec l'UFC à la Francis, où il avait tout le temps regardé en arrière Francis, mais généralement quand vous êtes très bien classé, c'est un peu l'UFC va essayer de faire monter un gars, si ça se passe bien, vous allez reprendre la marche avant, sauf que comme on vous l'a expliqué, là c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 options.
C'est ça, donc le problème c'est effectivement que comme devant lui tout le monde est pris, c'est soit probablement qu'il attend de voir si l'UFC se décide à lui faire un combat contre Thomas Spinal, soit peut-être contre Curtis Blaydes, sachant que Thomas Spinal et Curtis Blaydes eux commencent à se chauffer de leur côté aussi. Mais ouais, il n'y a pas 35 000 solutions pour Cyril. Il est beaucoup moins actif et il ne donne pas beaucoup de voix, il donne pas d'interviews, etc. Mais après, ça je comprends, enfin dans le sens, et on lui en a pas parlé directement, hein, mais je comprends dans le sens où déjà je pense qu'il y a eu un avant-après John Jones où il a vu que, ah, d'accord, en fait du coup quand on perd et quand on perd d'une manière qui frustre le public ou quoi, en fait tout l'opinion publique change et tu prends des bastos de ouf. Du coup je pense que maintenant il est un peu plus en mode, c'est pas que je fais le silence, tu vois, mais c'est s'il n'y a pas vraiment de raison de rester dans l'actualité ou quoi, je vais pas faire d'efforts supplémentaires, parce que probablement que faire des efforts supplémentaires, si t'as pas de combat de prévu ou si quoi, ça résultera probablement soit en des vannes, soit en des... Donc, le fait que lui-même ne se manifeste pas, ça me choque pas, forcément. Et après, l'UFC reviendra probablement en France en septembre, parce que c'est ce qu'ils font depuis 2 piges. Ça me choquerait pas que ce soit la prochaine fois qu'on voit Cyril, et donc peut-être contre Curtis Blaydes ou Thomas Spinal, quoi.
Et puis c'est ça aussi, les gars, c'est vrai que Thomas Spinal, on le voit plus parce que plus vocal, mais il a pas non plus d'autres combats de prévus, Sergei Pavlovitch également. Donc c'est ça qui est important aussi. Je pense qu'avec Cyril, c'est comme tu disais, ce qui joue surtout, c'est que récemment, il y a eu énormément de combattants français qui ont été mis en avant. Les Thomas Spinal, ils sont bien plus actifs sur les réseaux sociaux, et comme Cyril est plus discret aussi, il y a peut-être cette impression que le gars passe à la trappe, alors que je pense que Cyril, il y a ce côté, comme on l'a dit, là, le sommet de la pyramide, qui pour l'instant tout est frisé, et l'autre truc qui est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, pour Cyril, c'est que c'est le représentant du MMA en France, et donc forcément pour l'UFC, quand je dis ça, c'est que l'UFC, quand chaque fois qu'ils vont, parce qu'ils ont bien vu qu'en France, il y avait un énorme intérêt pour le MMA, chaque fois qu'ils vont venir en France, tant que Cyril sera aussi bien classé, ça va être lui le main event. Donc si Cyril est main event, ça veut dire qu'il doit être prêt pour cette période de septembre. Je crois qu'à la base, on devait avoir un événement UFC en mars et finalement, ça s'est pas fait. Donc forcément, bah, Cyril, l'UFC, il le garde pour la date de septembre. Mais quand vous avez un gars, et c'est le seul Cyril qui, pour l'instant, est, on va dire, aussi gros, aussi bien classé, même s'il y a Manon Fiorot, évidemment, qui va d'ailleurs bientôt affronter Blanchfield pour un très très gros choc, mais c'est pas la même notoriété, en tout cas en France aujourd'hui.
Et BSD, du coup. Ouais.
Et BSD également, mais... BSD, c'est pour ça, notoriété équivalente à Cyril Gane aujourd'hui, mais pas le même classement non plus, parce que BSD, il est dans le top 10, Cyril Gane, il est dans le top 10.
Et puis Cyril,
3.
C'est les poids lourds, et l'UFC met beaucoup plus les poids lourds en main event facilement.
Ouais. Exactement, donc pour un gars comme Cyril Gane aujourd'hui, il est obligé d'être frais, enfin, pour l'UFC, c'est important qu'il soit frais pour cette date de septembre, un peu comme quand Georges St-Pierre, quand vous regardez ses dernières défenses de ceinture, il combattait tout le temps au Canada chez lui, parce que c'était une date parfaite pour l'UFC, et puis c'était aussi bah, une opportunité financière intéressante pour l'UFC de le faire combattre, à la différence d'un gars comme Curtis Blaydes, où même dans l'Ohio, c'est pas lui la plus grosse star, puisque c'est Stipe Miocic. Donc quand vous avez un gars comme ça, vous pouvez le faire combattre à l'Apex, vous pouvez le faire combattre, c'est pas... vous pouvez le faire non, combattre mais... un peu n'importe où, parce que c'est pas lui qui va vendre les tickets. Si elle gagne, l'UFC, ils savent que vous mettez son nom, et c'est même ce qu'on avait dit avec Big Rusty lors du deuxième événement UFC Paris, où en gros, la carte était à l'international beaucoup moins intéressante que l'UFC Paris 1, mais pour nous français, elle était plus intéressante parce qu'il y avait beaucoup plus de noms. Parce que l'UFC, c'est aussi leur manière de faire la promotion de leurs athlètes, c'est que mettre les Français en avant. Sauf que Cyril, c'est un des seuls noms, en tout cas à l'époque de l'UFC Paris 2, qui vendait à l'international. Donc vous avez ce gars-là qui coche toutes les cases. En même temps, vous avez dans votre calendrier, comme un peu les UFC Londres qui reviennent soit en mars, soit en juillet, cette date-là, où vous savez que Tom Aspinall, si vous voulez faire un UFC, enfin UFC Londres, ça va être soit Tom Aspinall, soit Leon Edwards. Si c'est un pay-per-view, bah comme Leon Edwards est champion, ça va être lui. Si c'est un Fight Night, ça va être Tom Aspinall. Enfin, quoique maintenant, il a la ceinture, donc autant pour moi. Allez, Fight Night, ce sera peut-être Paddy, de Paddy Pimblett. Du côté de Cyril Gane, comme il n'a pas la ceinture, bah vous avez votre main event avec lui. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que, sagement, lentement, mais sûrement, on va avoir un retour de Cyril Gane. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, en termes de communication, comme il est moins présent, peut-être que l'UFC le squeeze. Mais c'est dans ce genre de cas, tu vois, Big Rusty, que moi, je ne serais pas contre, un peu comme ce qui se passe là, où il y a les rumeurs de John Jones contre Miocic en novembre prochain, en fait, que l'UFC annonce, même si c'est très tôt, puisqu'on est qu'au mois de mars, tu vois, de dire UFC Paris, et on va voir Cyril Gane qui sera de retour. Comme ça, on va dire que tout le monde, entre guillemets, est rassuré par rapport à sa situation.
Carrément, ouais, ce serait l'idéal.
Bah formidable, merci Big Rusty. Et puis, dernier point et pas des moindres, je pense aussi qu'il y avait l'UFC qui attendait de voir ce qui allait se passer entre Gelton Almeida et Curtis Blaydes, parce qu'à mon avis, c'était aussi le plan de l'UFC. C'est, on le dit souvent avec Big Rusty, il n'aime pas Curtis Blaydes, l'UFC, parce que chacun de ses gros chocs, il n'a pas été au rendez-vous, et même s'il est américain, le problème de Curtis Blaydes, c'est que l'UFC, enfin, le problème, c'est qu'il y a trop de highlights qui permettent de hyper les autres combattants plutôt que Curtis Blaydes quand il y a eu des gros combats. Et je pense qu'ils espéraient vraiment une victoire de Gelton, qui aurait pu la salement taper à la porte pour Cyril, enfin, pour un peu tout le monde, parce qu'en plus, c'est le Brésil. Enfin, bref, c'était parfait, Gelton Almeida, et que là, ils sont dans une situation. Merde. On a un gars, Gelton, qui avait déjà call-out Cyril Gane lors de sa dernière victoire, mais c'était un peu léger parce que forcément, c'est pas le même calibre. Là, il aurait pu battre le 5e mondial et ça aurait pu être réel. Maintenant, on se retrouve avec ce combat-là qui tombe à l'eau et Curtis Blaydes, dont on sait pas trop quoi faire, parce que le problème, c'est que Curtis, aujourd'hui, il a déjà perdu contre Aspinall. Il y a déjà eu le combat contre Aspinall, mais qui ne s'est pas fait. Donc là, vous avez une situation de flou. Il a déjà perdu contre Pavlovich, déjà perdu contre Derrick Lewis, dans les mecs qui sont actuellement présents à l'UFC. Donc un peu compliqué. Voilà pour le cas Curtis Blaydes. Big Rusty, je suis désolé. Ça, c'est le genre de podcast que je déteste, je tiens à le dire. Je tiens à le dire, Big Rusty.
C'est très bien.
Moi, je préfère quand il y a des échanges et tout. Et là, là on n'a pas été bon.
Bah oui, mais il y a eu de l'info, donc c'est ce qui compte.
Mais il y a eu de l'info, c'est vrai, Big Rusty. Et pour finir avec le classement, donc ESPN, on termine avec... Oui, c'est ça. Oui, voilà. Pardon. Et c'était le dernier point où je trouve ça. Donc on a Cyril Gane qui est classé 5e, donc dans le bloc numéro 5. Et dans le bloc 6, Brett Okamoto. J'espère qu'il verra jamais cette interview et que nos rapports resteront excellents. Bloc 6, il a mis Gelton Almeida et Robelis de Spain.
Robelis.
Ouais, et dans le bloc 7, il a mis Alexander Volkov, Sergei Spivak, Martin Tibura et Jerzy Rosenstruck.
Ok, bon bah ça confirme. En fait, ça confirme que du coup, c'est un classement qu'il a fait, pas en fonction de qui est vraiment où en ce moment même, mais qui, je pense, peut devenir dans les années qui viennent. Donc c'est un classement qui est un classement où il laisse, enfin qui comment Brett Okamoto pense va devenir dans les années qui viennent, mais c'est pas un classement actuel en fait, donc. C'est très... un classement science-fiction, quoi.
Et ce qui est très bizarre, parce qu'en même temps, ça se veut être...
En vrai, mettre Obélis d'Espagne devant Volkov, là, oui. Vraiment, c'est le dernier clou dans le cercueil. C'est-à-dire qu'il est en mode, moi, je pense que Obélis d'Espagne va aller plus loin que Volkov, qui peut le mettre KO, etc. Mais alors que pour l'instant, il n'a encore rien montré ni rien prouvé, Obélis d'Espagne.
Mais bon, c'est pour ça.
Au moins, ça confirme comment il réfléchit, quoi.
Exactement. À l'heure actuelle, c'est vrai que Obélis d'Espagne, on avait parlé en podcast avec Big Rusty. C'est un peu compliqué de se positionner clairement. C'est plein de promesses, évidemment, mais c'est un peu au moment comme si vous mettiez Jerzy Rosenstruck dans cette catégorie-là, avant même qu'il ait battu Arlovski. C'est oui. Sur le papier, c'est hyper intéressant, mais comme il a battu personne pour l'instant, un peu compliqué. Puis donc, dernière catégorie, donc le tier 8 pour lui, c'est le Bangers. Et il avait mis donc Tai Tuivasa et Derek Lewis. Voilà, monsieur. Bah, dans cette catégorie-là, oui, j'ai pas de soucis, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc voilà, les gars. En tout cas, pas d'inquiétude du côté de Cyril Gane. Pour moi, de toute façon, on aura nos réponses claires. UFC Paris, évidemment. Enfin, évidemment. Je pense qu'il sera main event aujourd'hui avec ce qui... Si BSD avait gagné, j'aurais eu... un discours différent, je pense, mais avec ce qui s'est passé pour BSD contre Poirier, je pense que Cyril Gane sera main event. Là où on pourra, je pense, moi, vraiment se positionner et dire un peu ce qui se passe pour l'UFC vis-à-vis de Cyril, c'est en fonction de l'adversaire. Si on a Thomas Pinal, bon, bah, c'est clair qu'il est toujours dans les petits papiers, toutes les discussions de match, ce sera faux. S'il a, et j'ai même envie de dire, Rust, s'il a Curtis Blades ou Pavlovich, ça veut dire que tout est ok pour lui parce que. Comme on l'avait dit, au regard de ce qui s'est passé avec John Jones, ça a eu tellement de résonance cette défaite-là que même si le combat était c'était une masterclass contre Spivak, directement choper le title shot après, c'est peut-être un peu juste. Alors que Pavlovich et Curtis Blades, enfin pour moi, ça veut dire qu'il est toujours respecté vis-à-vis de l'UFC. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Si. Ouais. Non, grave. Ouais.
Oui, voilà, il y a pas de. Enfin, ce serait plus si. Puis après, il les a battus de façon. Parce que quand on regarde le classement, ça voudrait. Mais oui, il les a battus. Parce qu'ensuite, quand on descend, Rust. Parce que, donc en gros, top 5, donc on rappelle le classement UFC, c'est 1 Aspinall, 2 Cyril Gane, 3 Pavlovich, 4 Miocic, 5 Blades, ensuite 6 Volkov, 7 Almeida, 8 Spivak. C'est impossible qu'ils lui mettent Almeida aujourd'hui.
Ouais, non, je pense pas. Bah. Ou alors, s'ils lui mettent Almeida, c'est que donc là, il est plus respecté, qu'il est plus dans les petits papiers. Quoi.
Voilà. Et après, en 8, donc il y a Spivak, 8, qu'il a déjà battu Cyril. Et en 9, on a Tiboura. Je les vois très mal mettre Almeida ou Tiboura pour Cyril à l'UFC Paris.
Ah, oh, putain, s'il met Tiboura, c'est une balle.
Bah c'est ça. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune progrès. Et voilà. Et là, on pourra effectivement s'inquiéter, avoir des vraies discussions vis-à-vis de ça. Mais ça veut dire qu'il n'y aurait aucune, en un an pour Cyril, après ce qu'il a fait à Spivak, aucune progression en un an.
Bon. Donc voilà. Non, ça paraît compliqué.
L'avenir nous le dira, Big Rusty. Ciao! I'm a sweet pea! Sweet Pain, moins 30% sur tous mes sweet pea avec le code la sueur. Ils font des fringues, des shakers, des protein! Donc moins de 30% minimum avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. C'est juste derrière moi, regardez ici. Holy Moly, donc moins 5% avec le code la sueur pour votre première grande vidéo. Putain, je vais chercher mon truc ou pas? Je vais chercher ou pas?
Non, ils sont là, comme d'hab. Non, mais je m'organiserai mieux sur le prochain.
Mais pas de problème, Big Rusty et code la sueur 10 si vous avez déjà commandé chez eux avec le code. Donc la sueur 10, j'ai déjà dit. Moins 10%. See ya. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.